Bonjour, aujourd'hui en ce jour de réveillon, une histoire de circonstance, le foie gras.
Ô toi, foie d'ange, ton doux parfum est une harpe sur nos palais. Ton harmonie joue des cymbales sur nos langues et nous traverse tout entier d'un long frisson de volupté. Pablo Neruda.
Ans d'histoire. Il y a 4000 ans, les Égyptiens avaient déjà remarqué la grosseur et la saveur des foies des oies sauvages qui venaient du nord de l'Europe pour passer l'hiver dans le delta du Nil. Ayant observé qu'avant chacune de leurs migrations, les oies mangeaient plus qu'à l'ordinaire pour se préparer à un long voyage, les Égyptiens se sont contentés de reproduire un acte naturel pour fabriquer les premiers foie gras de l'histoire. On ne sait pas si les volatiles appréciaient le traitement que leur faisaient subir les cuisiniers des pharaons avant de les passer à la casserole, mais depuis des siècles, de la vallée du Nil jusqu'aux fermes du Gers, de la table des Égyptiens jusque dans les cuisines des grands restaurants d'aujourd'hui, le foie gras reste un des plats les plus recherchés du monde, à condition bien sûr de savoir le préparer.
Écoutez-moi, votre foie gras, il est trop cru.
Et ce foie gras est poché à merveille, 25 minutes au four, à 140 degrés, température de l'eau 80 degrés, ni trop court, ni trop long. Il y a justement ce teint rose qu'il doit avoir comme il faut. Ce foie gras est cuit à la française.
Là, vous voyez un lobe de foie gras. Et ce foie gras, il a une belle couleur, un peu beige. Et un foie gras, pour qu'il soit très bon, il faut qu'il soit entre 4 et 500 grammes maximum. Parce que ensuite, s'il est trop gros, c'est que la bête a été trop gavée. Et si elle est trop gavée, le foie gras, bien sûr, il continue à grossir. Et après, à la cuisson, il va rejeter beaucoup plus de gras. Il faut qu'il soit entre 4 et 500 grammes, grand maximum. Mais moi, j'aime bien les foie gras de 400 grammes.
Paul Vanier, bonjour. Vous êtes Bonjour. L'auteur chez Flammarion d'un abécédaire du foie gras, qui est un produit qui sera évidemment ce soir sur beaucoup de tables de réveillon, mais sur lequel on sait généralement pas grand-chose, et d'abord que c'est un des plus vieux produits alimentaires de l'histoire.
Oui, vous parliez de l'Égypte. Peut-être qu'on peut faire même remonter au pays de Sumer, puisqu'on a des preuves qu'on avait déjà des oies et des canards dans ce pays, mais c'est évidemment avec les Égyptiens que commence la grande, bonne, belle histoire du foie gras.
Mais est-ce qu'ils le mangeaient sous la forme où nous le mangeons aujourd'hui? Est-ce qu'ils faisaient du foie gras ou est-ce qu'ils ont tenté de manger le foie des oies sans les engraisser?
Alors apparemment, ils ont dû commencer par les oies sauvages, mais on a là aussi les preuves sur des peintures, des tombeaux, où l'on voit vraiment les Égyptiens en train de gaver des oies, et donc je pense que s'ils les gavaient, c'était pour produire le foie gras.
Et sous l'œil attentif d'une population qui a joué un grand rôle dans l'histoire du foie gras, c'était les Hébreux quand ils étaient en Égypte.
Ouais, effectivement. Ce sont des conjectures, mais il semble que les Hébreux, qui étaient donc travailleurs immigrés en Égypte, et s'est vu confier l'élevage des volailles. Et dans la religion juive, il y a beaucoup d'interdits alimentaires, et consommer des oiseaux aquatiques était une façon de manger de la viande sans justement encourir les foudres de ces interdits.
Grand producteur de foie gras, et grâce à eux, au fond, par la diaspora, eh bien, on a retrouvé du foie gras dans toute l'Europe, au nord de la Méditerranée.
C'est vrai. Il semble qu'on peut suivre un peu la production de foie gras, et d'abord l'élevage des oies et des canards, en suivant la diaspora juive à travers le monde gréco-romain, le monde d'Europe centrale et l'Espagne également. Oui. Et là, on a quasiment les deux courants qui vont se rejoindre en France pour nous donner le foie gras qu'on connaît aujourd'hui.
Vous avez cité les Romains, Paul Vanier. Alors, vous rappelez qu'en fait, d'abord à Rome, on engraissait toutes sortes d'animaux, toutes sortes de volatiles, hein, et pas seulement des oies ou des canards.
Je crois même qu'il y avait des pigeons. Et surtout qu'on les engraissait d'une manière qui est totalement disparue aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on les engraissait avec des figues.
Effectivement, puisque le nom en latin, c'est gecurficatum, qui veut dire foie engraissée avec des figues. Mm-hmm. Et bizarrement, c'est le mot ficatum, qui vient de figue, qui a donné le mot foie en français. Mm-hmm. Donc c'est assez étrange. Mm-hmm. Alors on n'emploie plus les figues aujourd'hui, encore que dans le Gers, on s'est mis à essayer de nouveau engraisser des oies et des canards avec des figues.
Ensuite, on a utilisé des céréales, et notamment du maïs, hein, qui est, je crois, le grand aliment. Enfin, on y reviendra, Paul Vanier. Alors, ensuite, le foie gras disparaît, on a l'impression, pendant à peu près 1000 ans, entre la chute de l'Empire romain et, disons, le 15e, 16e siècle, on ne parle plus tellement de foie gras. Est-ce qu'il en existe plus sur les tables?
Il semble bien qu'il en existe encore. Il en existe peut-être tellement qu'on n'en parle plus, puisqu'il est devenu un peu banal. On a, par exemple, l'exemple d'un roi wisigoth qui, au 5e siècle, en faisait quasiment son plat du jour. Mmh. Si on n'en parle plus, c'est peut-être que les cuisiniers n'en parlent plus. On a quand même des traces dans beaucoup d'écrits au hasard d'une recette où on voit justement que beaucoup de cuisiniers, des grands de ce monde, disent qu'ils ont préparé une oie, achetée justement chez des juifs.
Puis il y a les arabes aussi qui introduisent le gavage, cette fois-ci non plus des oies mais des canards. Et puis brusquement au XVIe siècle, on redécouvre et on parle du foie gras, la revue de texte de Stéphanie Duncan.
Et oui, après environ 1000 ans de silence, voilà qu'au XVIe siècle, le foie gras, dodu et bien portant réapparaît. Un manuel de cuisine en 1543 donne des conseils pour l'engraissement des oies. Le froment engraisse et fait grand foie, dit-on. Certains leur font un pas de figues, nouvelles ou sèches, avec le vin. Donc, depuis Rome, on s'est remis aux figues. Et en guise de suprême raffinement, le manuel ajoute « On crève les yeux des oies pour les mieux engraisser ». Alors vous en doutez, Rabelais lui fait honneur aussi. Un de ses personnages invoque un certain Saint Féréol, natif de Limoges, qui, écrit Rabelais, fait engroussir les oies. Mais ce sont les Juifs, vous l'avez dit, qui ont la réputation d'être les meilleurs fournisseurs en foie d'oie. Au XVIIe siècle, un marquis italien l'affirme encore, les oies gouvernées par les Juifs ont un foie très grand qui, parfois, est aussi large qu'une assiette. Alors, une réputation qui perdure au XVIIIe, Casanova, grand voyageur et coureur de jupons, est aussi une fine gueule. Un soir qu'il dîne chez un marchand juif d'Ancône, il juge le menu un peu trop maigre à son goût. « Je le prévins, dit-il, que j'avais trouvé le souper fort bon, mais je le priais de ne pas oublier les foies d'oie. » Le lendemain, Casanova est doublement comblé, car qui vient lui servir le foie gras? Eh bien, Lia, la non moins appétissante et grasse fille de la maison. Lia, écrit Casanova, ayant apporté un foie d'oie superbe, s'assit en face de moi, sa belle gorge couverte d'un fichu de mousseline. On ne sait plus vraiment qui est l'oie dans l'affaire. Alors au 19e, le foie gras devient le must de toute table bourgeoise qui se respecte, celle de Génie Grandet, de Balzac, de Rossini et son fameux tourne-dos dégoulinant de foie gras. Dans un roman de Zola, La joie de vivre, Chantot, un des personnages, ne peut pas y résister. Elle avait ouvert son sac et en tira une terrine de foie gras. Les yeux de Chantot s'allumèrent. Du foie gras, du fruit défendu, une friandise adorée que son médecin lui interdisait absolument. Il saisit la terrine et se servit d'une main tremblante. Tant pis, c'était trop bon, il souffrirait. Et les oies, elles en pensent quoi? Alors, je vous entends déjà d'ici, elle va nous faire du sentimentalisme victorien, les pauvres bêtes. Eh bien non, ce sont les oies elles-mêmes qui parlent. Au 19e, elles ont signé une pétition, c'est du moins ce que rapporte Alexandre Dumas dans son grand dictionnaire de cuisine. Au mépris des lois de la nature, on s'applique à nous faire grossir monstrueusement un viscère composé de deux lobes inertes. Hélas, disent les oies, qu'avons-nous fait, nous, malheureux oiseaux? On nous aveugle, on nous étouffe, on nous torture. Que diriez-vous si l'on vous attachait sur des planches, que l'on vous y clouait les pattes et si l'on vous arrachait les yeux pour s'attaquer ensuite à votre foie comme le vautour de Prométhée?
Et Dumas, qui aimait bien la bonne chair, ne semblait pas apprécier le traitement qu'on infligeait aux oies.
Il est ironique.
Oui, mais on y reviendra sur cette polémique. Mais sur ces textes, d'abord, je crois qu'effectivement, c'est au XVIe que le mot foie gras apparaît dans un livre qui s'appelle le cuisinier français. C'est Lavarenne qui en parle pour la première fois. Exactement. Alors que jusque-là, on disait foie. Mais surtout, on a entendu dans ces textes, on parle essentiellement de la grande région productrice de l'époque et qu'il est resté jusqu'au milieu du XXe siècle. C'est l'Alsace, Paul Vanier.
C'est vrai que l'Alsace était la grande région productrice, je pense là aussi par l'influence des Juifs venus de l'autre côté du Rhin. Et puis la production a un peu disparu au 19e, je pense, pour une des raisons avancées, c'est qu'il n'y avait pas de tradition de consommation de l'oie et du canard autrement que du foie, et donc il n'y avait pas de débouché économique. Et donc c'est le sud-ouest ensuite qui a pris, pour ainsi dire, la relève, pour là aussi des raisons, je pense, économiques, parce que le sud-ouest avait là une grande tradition de consommation de volailles, de canards en particulier, et puis il y a eu, l'apparition du maïs. Ouais.
Mais c'est quand même en Alsace, Paul Vanier, que par exemple est inventée une des formes sous lesquelles, et la plus importante, sous lesquelles on mange aujourd'hui le foie gras. C'est un certain Jean-Pierre Claus qui découvre, ou qui met au point, un pâté en croûte qu'il appelle le pâté à la Comtat, c'est-à-dire parce que c'était le Comtat des temps, le gouverneur d'Alsace. Et le pâté de foie gras, il date de là.
Oui, il date de là, et on dit même que le maréchal de Comtat a envoyé un pâté à Louis XVI et qu'en retour, il a eu quelques avantages, sinon en espèces, du moins en propriété. Mmh. Et puis, il y a eu une union, là aussi, on peut dire, entre Sud-Ouest et Alsace, puisque le cuisinier, cette fois, du gouverneur du Parlement de Bordeaux, du président du Parlement de Bordeaux, est venu s'installer après la Révolution à Strasbourg et apporter sa façon à lui de traiter le foie gras, en particulier avec les truffes. Et donc là, on a l'union des deux régions, si l'on peut dire.
Les régions dont le sud-ouest, hein, l'Alsace ayant décliné depuis, le sud-ouest est devenu la première région productrice de France et même du monde, puisque la France est la première productrice, le premier pays producteur de foie gras. On écoute justement René Elkaïm Bollinger sur un marché au gras des Landes pour l'émission La Boule de bouche à oreille de France Culture, le 23 décembre 2002.
Des canards, des oies, c'est immense.
Oui,
hein,
alors nous sommes sous la halle du marché au canard gras, qui précède le marché au foie gras. Et là, regardez ce spectacle, vous avez une mer de canards, tous alignés.
Et là, ils sont tous allongés comme ça sur des tables.
Tous alignés sur des tables blanches, les uns à côté des autres. Alors il y a des canards mulards, des canards de Barbarie. Il y a sûrement des oies aussi. Et c'est assez impressionnant, c'est très impressionnant.
Mais il y en a combien, on peut dire, je ne sais pas, des...
Alors peut-être plusieurs milliers de canards gras.
Les coups sont...
Les coups pendent comme ça, bien enveloppés dans un papier blanc.
En coiffe de dentelle, un parapluie sous l'aile, elle était la plus belle des fermes d'Ottawa. Mes filles nostalgiques d'un canard de musique, la danse magnifique des tropiques l'attira. Et la canne du Canada s'en alla cacaa vers le Rio de la Plata pour apprendre la samba. Elle dansait la polka, la java, la mazurka, mais voulait aller là-bas pour apprendre la samba. Comme c'était toute une affaire qu'un voyage aussi lointain, par orgueil notre commère le criait sur les tas de coins. Coin, 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 avec tous les canards du coin. En voyage elle attrapa la pépine, la malaria, le mal de mer à Cuba, mais rien ne la refuta. Du côté de la Guyane, elle fit une maladie de foie et resta 6 mois en panne, mais criait sur tous les toits. Moi j'aime mieux ça, que de finir mes jours en foie gras.
Vous êtes sur France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui le foie gras.
Et c'était Maurice Chevalier, la canne du Canada, hein, la canne qui se garde bien, Paul Vanier, vous l'avez remarqué, de passer par les Landes, hein, qui sont devenues et le sud-ouest de la France, pour pas finir en foie gras. Vous disiez tout à l'heure que si le sud-ouest est devenu la première région productrice de France, et les Landes, le premier département producteur de foie gras, c'est d'abord à cause du maïs.
Le maïs qui est venu remplacer le millet, qui était la céréale employé jusque-là. Le maïs est arrivé donc avec Christophe Colomb, et le maïs avait cet intérêt pour les paysans du sud-ouest, c'est qu'on ne payait pas de dîme, et donc le maïs s'est développé, et il était ensuite très avantageux de cultiver du maïs pour les métayers lors du partage des récoltes. Donc le maïs est devenu la première plante pour nourrir les volailles.
Oui, vous dites les volailles parce que en fait, de moins en moins, il s'agit des oies, c'est surtout le canard. Je crois que 90% aujourd'hui du foie gras est du foie gras de canard, et élevé dans le sud-ouest notamment.
Oui, exactement. Et ça, depuis, c'est assez récent. Il y a 50 ans, c'était l'inverse. Il y avait beaucoup plus d'oies, de foie d'oie que de foie de canard. On pense que le canard est plus facile à élever et il semble que les Français aiment bien le foie gras de canard qui, paraît-il, est peut-être plus goûteux, mais les puristes disent que le foie d'oie est beaucoup plus subtil. Mmh. Mais là, c'est une guerre, une polémique dans laquelle on n'entrera pas.
Il y a eu beaucoup une grosse évolution dans l'histoire et dans la production du foie gras, Paul Vanier, notamment, par exemple, la mise au point d'espèces qui étaient peut-être plus rentables ou qui donnaient un meilleur foie gras. Par exemple, le foie gras de canard vient essentiellement du mulard, qui est en fait un croisement.
Le croisement entre le canard de Barbarie et la canne de Pékin, et donc le mulard produit aujourd'hui le foie gras, et le foie gras est exclusivement des mâles. Mmh. Et puis les oies ont été mises au point aussi, en particulier par une station de l'INRA. Ce n'est plus l'oie de Messeux, Boulois de Toulouse, mais c'est l'oie grise des Landes ou l'oie d'Artiguerre.
Autre progrès considérable qui explique aussi l'explosion de la production et de la consommation de foie gras, Paul Vanier, c'est bien sûr la mise au point, mais c'est là très tôt, il y a déjà 2 siècles, de la conserve par Nicolas Appert.
Oui, Nicolas Appert, et avant il y avait la conserve, j'allais dire, dans le confit et dans la graisse d'oie. Mais effectivement, la découverte par Nicolas Appert de la conserve dans les boîtes que l'on connaît aujourd'hui, a permis justement de développer le marché du foie gras, qui autrement était un produit extrêmement fragile et à consommer quasiment sur place.
Oui, parce que maintenant on peut le vendre très loin, le conserver plus longtemps, on peut le produire à n'importe quelle pour le consommer à n'importe quelle période de l'année, ce qui n'était pas le cas auparavant. Autre évolution, autre découverte importante dans l'histoire du foie gras, Paul Vanier, c'est la découverte d'un matériel que certains considèrent comme un instrument de torture, c'est l'ambuc.
L'ambuc qui a été mis au point, dit-on, par Monsieur Louis Gallet, et qui est finalement un entonnoir pour permettre de nourrir les oies et les canards. Mmh.
Et c'est en quoi il consiste exactement?
C'est un entonnoir muni d'un tuyau qui permet de descendre l'alimentation jusqu'au jabot, jusqu'au gésier de la volaille, et donc de lui mettre directement la nourriture. C'est le principe, j'allais dire, des oiseaux qui nourrissent leurs petits, c'est de le mettre tout au fond du tube, oui, qui descend vers l'appareil digestif.
Là, peut-être qu'on les force un peu. En tout cas, le gavage est à l'origine d'une polémique qui oppose depuis un siècle les producteurs de foie gras aux défenseurs des animaux. Écoutez le gavage d'une oie dans le Gers, enregistré par Pascal Fossat pour l'émission Le Pays d'ici en 1996.
Je prends la bête. Elle la serre entre les jambes, entre les pieds. On prend l'ambuc et on le met dans le bec. On met le maïs avec de l'eau. On met la machine en route et on tasse. On fait descendre. Et il faut tasser. C'est important pour faire le jabot de l'oie. Parce que l'oie ne fait du foie qu'à un certain stade. Il faut arriver tous les matins et soirs en tassant le maïs. On dilate le jabot de la bête. Et à un moment donné, quand on arrive à lui mettre environ autour de 900 grammes de maïs, ça veut dire qu'à ce moment-là, ce petit plus, le 1, 2 grammes de plus, c'est ça qui fait le foie. Parce que jusqu'à ce stade, elle ne fait que de la graisse.
La question qui fâche, hein, Paul Vanier, et puis qui est un objet de polémique depuis des années, est-ce que les oies souffrent quand on les gave? C'est ce qu'affirment beaucoup de gens.
Oui, alors là, évidemment, il est bien difficile de répondre à la place de la bestiole elle-même.
Oui, là, on les a entendues, elles n'avaient pas l'air d'accord. Hein.
Elles n'avaient pas l'air d'accord, vous savez, même quand elles sont d'accord, le cri de l'oie n'est pas très agréable, il faut dire. Bon, ce qu'on peut dire, c'est d'une part que le gavage dure de 2 à 4, 6 secondes, 2 fois par jour. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que les oies et les canards qui sont gavés accourent lorsque le gaveur, personne... Oui, donc si elles étaient très très malades ou très souffrantes, je pense qu'elles se sauveraient. D'autre part, il y a eu quand même toute une série d'études depuis déjà pas mal d'années par des stations de l'INRA qui ont mesuré aussi bien le comportement des animaux que les réactions physiologiques. Et donc là, on est arrivé aux conclusions, j'allais dire scientifiques, on est bien obligé d'en tenir compte, puisqu'on n'a que ce barème, le reste c'est une question, j'allais dire, de sentiments, sinon de sentimentalité, c'est que le stress provoqué par le gavage est moins important que le stress provoqué, par exemple, par la capture de l'animal lui-même, pour le soigner ou pour le rentrer, et qu'au bout de 2 jours, toute manifestation de stress a disparu. Voilà ce qu'on peut dire. En plus, le gavage ne touche à aucun organe digestif. C'est simplement faire accepter, je dis bien accepter, parce que si l'animal le refuse, vous ne gaverez pas.
Ça, c'est ce que disent les producteurs, et on les comprend, mais ouais. Bon, à vrai dire, c'est ce que vous disiez, on n'a pas la vie des oies là-dedans, hein, ou des canards.
Non, bien sûr.
Alors, autre sujet de polémique, on dit souvent qu'en forçant, parce que c'est un peu l'alimentation forcée, qu'en forçant les oies ou les canards à manger, on fabrique un foie malade.
Oui, alors ça, là aussi, il faut remettre un petit peu les pendules à l'heure. Le foie engraissé, donc, qui est en état, on appelle stéatose, qui veut dire qui a accumulé de la graisse, n'a aucun élément pathogène, ni aucun virus, ni aucun microbe, et qu'il continue de fonctionner. C'est d'autant plus vrai que si on arrête le gavage, le foie reprend sa forme et son poids initial.
C'est ce que vous appelez la réversibilité.
C'est la réversibilité, ça n'est donc pas une cirrhose, comme on entend dire quelquefois, c'est une stéatose, c'est simplement un état d'engraissement.
Alors c'est devenu quand même un travail très industriel, le marché est concentré entre les mains de très grandes entreprises. Il reste pourtant, dites-vous, artisanal, il n'y a pas de véritable usine en fait à fabriquer du foie gras.
Il n'y a pas d'usine parce que l'élevage reste du domaine de l'artisanat, des producteurs. Le gavage reste une activité très artisanale par définition. Et donc là, on peut dire qu'il y a une activité industrielle, mais il y a aussi une activité artisanale qui demeure dans les fermes du Sud-Ouest.
En tout cas, c'est le cas de l'élevage de monsieur et madame Tezin dans les Landes en 1975.
Qu'est-ce que vous leur donnez à manger ?
Uniquement du maïs qui est produit sur l'exploitation et du maïs blanc. Pour donner une teinte claire, rose au foie. Et le maïs jaune teinterait le foie. Alors, nous avons une production de maïs blanc uniquement pour le gavage.
Et vous élevez à peu près combien d'oies par saison ?
Cette année, enfin, c'est un élevage assez familial. Nous allons faire dans les 450 oiseaux.
Il y a beaucoup de malfaçons. Et on fait passer sur l'appellation foie gras, on fait passer beaucoup de choses. Parce que sur l'appellation foie gras, mousse de foie gras, purée de foie gras ou foie gras, bloc de foie gras, je sais pas comment, on y fait passer un peu de foie gras et beaucoup d'autres choses. Notre optique, si vous voulez, c'est faire des produits de qualité, nous ne travaillons que pour ça, et nous voudrions bien, nous aimerions bien que cette qualité, le consommateur la retrouve. Et malheureusement, souvent, il ne la retrouve pas, et c'est ça que nous regrettons.
Et oui, il y a foie gras et foie gras, on vient de l'entendre. On se retrouve pas tellement dans les appellations du foie gras. Il y a le foie gras entier, le foie gras, le bloc de foie gras. Comment faire la différence, Paul Vanier ?
Alors, le foie gras entier, normalement, c'est un foie gras entier, comme son nom l'indique, composé d'un ou de plusieurs lobes provenant d'un seul volatile. Ça, c'est le foie gras entier. Le foie gras sont des morceaux de lobes qui sont agglomérés. Et les blocs de foie gras, là aussi comme son nom l'indique, ce sont des blocs composés, reconstitués de foie gras. C'est aussi dans la présentation que cela joue. Ensuite, on arrive, comme le disait, on entendait dans le reportage,
Monsieur Tezin, là, oui.
à des galantines où il faut au moins 50% de foie gras. Ensuite, les médaillons où il faut 75% de foie gras, les mousses, etc. Ce sont d'autres des produits où il y a une teneur en foie gras moins forte.
Et des produits qui viennent de France. La France est le premier pays producteur et largement devant tous les autres du monde.
Sur les 20 500 tonnes produites dans le monde, la France en produit de l'ordre de 17 100 tonnes. Ce qui est considérable. Et elle en consomme une grande partie, il faut bien le dire, puisque les exportations tournent autour de 2 500 tonnes.
Mais elle est de moins en moins seule, hein. Vous citez aussi des pays qui sont en train de développer leur production de foie gras.
Exactement. Là, on retrouve la Hongrie, la Bulgarie, la Pologne et Israël qui développent une production de foie gras d'oie.
Et quel est l'avenir du foie gras, Paul Vanier ? Parce que quand même, on est à une période où on recommande aux gens de pas manger trop gras, etc. Est-ce qu'il n'est pas menacé, cet avenir du foie gras ?
Alors là aussi, je vais me faire l'apôtre du foie gras. C'est que c'est un produit qui est recommandé par les diététiciens.
Oui, mais on dit toujours ça.
On le dit, mais on le prouve. Parce que les acides gras contenus dans le foie gras, et on a tous besoin d'acides gras, quoi qu'on en dise, c'est le carburant de nos cellules, ce sont des acides gras, alors les fameux acides gras polyinsaturés et monoinsaturés, qui sont très abondants dans le foie gras. C'est la même chose un peu que dans l'huile d'olive, ce qui explique d'ailleurs que dans le sud-ouest, les maladies coronariennes sont 50% moins abondantes que dans le reste de la France.
On meurt plus tard qu'ailleurs.
On meurt plus tard qu'ailleurs, et les accidents coronariens sont beaucoup moins importants parce qu'on se fait du bon cholestérol grâce au foie gras et aux autres produits dont on n'a pas parlé, qui sont les confits, qui sont le magret, etc.
C'est tellement bien qu'il faudrait presque le faire rembourser par la sécurité sociale, Paul Vanier.
Oui, ça serait intéressant. Je ne sais pas si on a beaucoup de chance actuellement.
Vous allez en manger ce soir ?
Oh, j'espère bien.
Et sous quelle forme ?
Alors écoutez, ça va être la surprise. Mais je vous le dirai si vous voulez bien.
Hein, foie gras cru, foie gras bicuit, foie gras pertisé.
Voilà, toutes les présentations sont possibles. Et on dit même que le foie gras pertisé se conserve et qui est comme les bons vins, il se bonifie en vieillissant.
Merci Paul Vanier. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur de l'abécédaire du foie gras, un livre bien illustré publié aux éditions Flammarion dans la collection l'abécédaire. Vous avez d'ailleurs écrit aussi un abécédaire du miel qui a été publié dans la même collection. On a deviné que vous étiez un homme gourmand. Puis avec vous, on apprend des tas de choses aussi dans ces deux livres. À lire également le livre du foie gras, un livre magnifiquement illustré de Silvano Cervanti, publié chez Flammarion. Et un autre livre, Je me souviens, Les Landes, de René Hardy-Louze, avec des photographies de Pierre Toulgouate et Émile Vigne, publié chez Cairn. Vous avez pu en entendre un extrait du film « Chère Martha » de Sandra Nettelbeck. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Gaëtan Colli, documentation Claire Destacan et Claire Tesser, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
Une émission de Patrice Gélinet.
Demain, jour de Noël, un sujet de circonstance, la Palestine au temps de Jésus.